avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier Drapé, bonjour.
Oui, bonjour Alexandre. Je vais vous parler aujourd'hui comme responsable de l'Observatoire sociopolitique diocésain qui suit les controverses dans les médias et qui essaie de réfléchir à certaines problématiques. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, une fois de plus, qui est la controverse récente relative au secret de la confession. Suite aux propos que Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, avait tenu sur ce sujet, propos certainement maladroits, il l'a reconnu lui-même, dans la foulée de la remise du rapport de la CIAZ sur les abus sexuels dans l'Église, c'est-à-dire dans un contexte extrêmement délicat pour lui et pour l'Église en France, c'est tout à fait évident. Pour simplement essayer d'y voir un peu plus clair, car je considère qu'il s'agit là d'une question fondamentale et non pas simplement d'une question un petit peu subsidiaire, comme Jérôme Chapuis l'écrit dans La Croix d'hier ou de ce jour, je voudrais d'abord rappeler un fait important que d'ailleurs Éric de Moulin-Beaufort, Monseigneur de Moulin-Beaufort, a rappelé lui-même, c'est que la confession est reconnue par les lois de la République, elle est reconnue par le droit civil dans notre pays comme étant une expression finalement de ce qu'on appelle plus largement dans la société et en droit le secret professionnel. Il existe une circulaire de la chancellerie, c'est-à-dire du ministère de la Justice, du 11 août 2004 qui a été confirmée en 2014, qui considère que la confession, dans le cas de l'Église catholique, finalement, c'est l'extension du secret professionnel à des responsables religieux. La confession est assimilée par la loi et par la jurisprudence à une forme un peu particulière de secret professionnel. Hein, ce secret est donc reconnu par la loi civile elle-même. Et c'est ce qui explique que Éric de Moulin-Beaufort est considéré, suite aux propos qu'il avait tenus sur l'émission La Matinale de France Info, je crois, le 6 octobre dernier, ce qui explique donc qu'il est lui-même considéré, dans un communiqué qu'il a diffusé le jour même, le 6 octobre, je le cite, qu'il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République, puisque celle-ci n'impose pas sa levée. C'est l'article 226.13 et 14 à propos du secret professionnel applicable aux ministres du culte en application d'une jurisprudence constante. Le droit canonique, poursuit Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui impose aux prêtres le secret de confession comme absolu et inviolable, en vertu du canon 993, n'est donc pas contraire au droit pénal français. C'est ce qu'explique donc Monseigneur de Moulin-Beaufort. En même temps, un problème se pose bien entendu en ce qui concerne les cas de pédophilie. Un prêtre doit-il ou non, malgré tout, considérer qu'il est tenu par la loi pénale qui impose depuis quelques années à une personne qui a connaissance d'abus sexuels sur mineurs de dénoncer les faits à la justice, de faire au minimum ce qu'on appelle un signalement. Autrement dit, y a-t-il ou peut-il y avoir pour le secret de la confession, au même titre que pour d'autres secrets comme le secret médical par exemple, des exceptions? C'est en fait toute la question qui se pose. Bon. Pour autant, on peut-être rappeler, comme l'a fait par exemple un juriste tout à fait connu et reconnu qui s'appelle Maurice Garçon, on doit reconnaître, je crois, le caractère essentiel, fondamental dans la société de ce secret professionnel. Pour autant, un juriste éminent qui était Émile Garçon a insisté, comme le rappelle l'abbé Philippe Beitia dans un article de notre Église en septembre 2019 sur le secret de la confession, a beaucoup insisté sur l'importance de ce secret absolu et inviolable pour que puisse prévaloir la confiance dans la société et pour le bon fonctionnement de la société. Alors je le cite, « Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable », écrit Émile Garçon. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Alors indépendamment de l'aspect secret professionnel que une personne étrangère à l'Église catholique comprend parfaitement, on doit toutefois souligner aussi que le secret de la confession, pour un catholique en tout cas, va bien au-delà du simple secret professionnel. Et cela nous amène finalement à rappeler un petit peu quelle est la nature du secret de la confession, à rappeler que c'est le Christ lui-même, en fondant l'Église catholique, qui a confié aux apôtres, et par conséquent aux évêques qui sont successeurs des apôtres, comme il est dit dans l'Évangile, le pouvoir de lier et de délier, de pardonner aux baptisés qui souhaitent se confesser, demander le pardon pour les péchés, les fautes ou les crimes qu'il a pu commettre. Ce pouvoir de pardon n'est pas par conséquent celui du prêtre, c'est vraiment le pouvoir du Christ au nom duquel le prêtre parle. Et c'est ce qui est rappelé, évidemment, dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'une fois de plus, je peux vous citer brièvement, en particulier l'article 1466 et 1467 du catéchisme. Le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. L'Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés sous des peines très sévères. Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret, qui n'admet pas d'exception, s'appelle le sceau sacramentel, car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste scellé par le sacrement. Alors, comme l'écrit Monseigneur Hayet dans un texte, un document récemment, je le cite plus ou moins, « On est dans un ordre qui va au-delà du secret professionnel, dit-il, qui est d'une autre nature. Il s'agit en fait de la relation du pénitent avec Dieu lui-même. Le pénitent s'adresse à Dieu dans sa demande de pardon et non pas à l'homme qu'est le prêtre. Autrement dit, on touche vraiment à la liberté de conscience du pénitent. Il s'agit d'une relation entre le croyant et Dieu. Il s'agit d'un problème de liberté de conscience sur lequel on ne peut pas transiger. Je rappelle d'ailleurs aussi au passage que l'article 1er de la Constitution française de 1958 garantit, comme on le sait, non seulement le principe de la liberté religieuse, mais reconnaît aussi ce qu'on appelle la liberté de conscience. Et il s'agit bien, une fois encore, ici, d'un problème de relation de conscience entre l'un et l'autre. Il faut rappeler aussi que le Concile du Latran en 1215 a affirmé enseigné le principe du secret absolu de la confession. Il faut rappeler que le Code de droit canon de 1983 précise de manière assez claire « Le secret sacramentel est inviolable, c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent par des paroles ou d'une autre manière et pour quelque cause que ce soit. » C'est le canon 983, paragraphe 1 du Code de droit canon de 83. Et puis il y a aussi, plus récemment, une note de la pénitencerie apostolique du 21 juin 2019 qui a été approuvée par le pape François, qui rappelle l'importance du fort interne et l'inviolabilité de ce qu'on appelle le sceau sacramentel, rappelant même que le secret de la confession est de droit divin et que sa violation par le prêtre est passible d'excommunication, voire de perte de l'état clérical. Bon. On pourrait même encore rappeler d'ailleurs que un certain nombre de saints ou de martyrs, en tout cas de prêtres, On préférait mourir plutôt que trahir le secret de la confession. C'est par exemple le cas d'un prêtre qui a été canonisé, Saint Jean Nepomucène, mort en 1393 et qui a été canonisé par le pape Benoît XIII en 1724 comme martyr pour précisément avoir refusé de violer le secret de la confession. Donc on voit que c'est un principe pour l'Église catholique sur lequel on ne peut a priori pas faire d'exception comme certains le voudraient. En tout cas, il s'agit d'une question qui va au-delà d'un simple aspect disciplinaire. J'ajouterai à cela que la remise en cause éventuelle du secret de la confession ou du secret absolu de la confession, si on reconnaissait quelques exceptions, ne relève pas de la responsabilité d'une conférence épiscopale, bien entendu, car encore une fois, c'est une législation canonique universelle au niveau de l'Église elle-même. Et il me semble que, le pape ayant rappelé que ce principe était de droit divin, que l'Église elle-même, d'une certaine manière, n'a pas la possibilité de changer une telle règle qui engage la liberté de conscience entre une personne et Dieu. Autre considération qui me paraît également intéressante, il y a en France un principe de laïcité auquel on tient beaucoup qui appelle à rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Alors on peut rendre à César ce qui est à César, mais il ne faut pas oublier de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et il me semble effectivement qu'on est là, en parlant de la confession, dans une question qui relève de l'organisation interne du culte. Alors que compte tenu de la loi de séparation de l'Église et de l'État ou des Églises et de l'État de 1905, a priori, le gouvernement ne devrait pas pouvoir intervenir, faire une intrusion en ce qui concerne l'organisation interne du culte ou la discipline canonique des sacrements, ce que certains semblent oublier en considérant que Mgr Éric de Moulin-Beaufort, en répondant à la convocation, d'une certaine manière, de M. Darmanin au ministère de l'Intérieur, donne l'impression d'une certaine soumission au gouvernement, alors qu'en réalité, je pense que dans l'esprit d'Éric de Moulin-Beaufort, il ne s'agissait absolument pas d'une telle démarche, j'allais dire, de soumission. Bien entendu, au contraire, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, à juste titre, a rappelé que il était important à ses yeux, compte tenu de la nécessité de lutter contre la pédophilie et de protéger de façon prioritaire d'éventuelles victimes et en particulier des enfants, qu'il était important à ses yeux de concilier la nature de la confession et la nécessité de protéger les enfants. Ce qui est tout à fait envisageable, effectivement, je crois, dans la mesure où l'Église, d'une manière générale, et peut-être pourra-t-elle le faire de manière plus déterminée encore, est tout à fait habilitée, et elle le fait d'ailleurs, à demander aux confesseurs, dans le cas de péché très grave, d'exiger du pénitent, s'il est un criminel et en particulier s'il est pédophile, de réparer le mal qu'il a commis en se dénonçant à la justice, et il est même, à mon avis, nécessaire que ce prêtre qui confesse refuse l'absolution à un pénitent qui ne serait pas disposé à se dénoncer à la justice. Autrement dit, comme dit Mgr de Moulin-Beaufort, il est certainement tout à fait possible de concilier, une fois encore, ce secret de la confession avec la nécessité de lutter à tout prix, en particulier dans l'Église, contre la pédophilie.
Merci beaucoup Olivier Drapé, à dans 15 jours. Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.